Bonsoir à tous. Dans la tribune de presse de ce soir, nous allons analyser le dernier rapport du Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies sur la RDC. Et nous parlerons sécurité aussi avec la situation qui prévaut à Uvira où les Maïmaï à Koutoumba ont été repoussés par l'armée régulière. Tout ça avec comme invité Jean-Pierre Kayembe. Bonsoir. Vous êtes journaliste et responsable de la presse numérique à RTGA, un média qui est émis ici à Kinshasa. Peter Tiani, bonsoir.
Bonsoir, Berry Pompion-Nichaka.
Vous êtes journaliste et directeur du magazine Vrai Journal, diffusé sur certaines chaînes privées de Kinshasa. Et puis on a aussi Donna Moussema, bonsoir.
Bonsoir Berry, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi au complet.
Vous êtes directeur général de la radio Iriba FM, émettant à Bukavu et point focal de l'association des journalistes des Grands Lacs représentant le Rwanda, le Burundi et la RDC. Bonsoir aussi à Bob Landou qui assure la mise en onde de cette édition. Encore une fois, bienvenue à tous dans la tribune de presse de ce dernier vendredi du mois de septembre 2017. Et je salue aussi Guy Maté qui nous présente maintenant la revue de presse.
Bonsoir. La presse kinoise est revenue sur le récent rapport du Conseil des droits de l'homme au sujet de la situation des droits de l'homme en RDC, la situation sécuritaire à Uvira ainsi que l'allocution du chef de l'État à la tribune des Nations Unies ont également défrayé la chronique ainsi que l'investiture du nouveau président angolais. C'est ainsi que le potentiel reprend carrément une phrase contenue dans les rapports du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui affirme que la situation dans la région du Kasaï est l'une des pires crises des droits humains. Et au quotidien d'annoncer que lors d'un exposé mardi devant le Conseil des droits de l'homme, Mme Gilmore a dénoncé les activités des milices et des forces de sécurité congolaises dans cette région qui ont conduit à une grave crise humanitaire dans une zone déjà gravement affectée par la pauvreté. Le phare titre pour sa part, droits de l'homme, nouveau carton jaune à la RDC. L'armée et les services de sécurité accusés d'être au cœur des violences. Ce journal renchérit en disant que l'usage disproportionné de la force dans la répression des manifestations publiques est épinglé comme un manque de professionnalisme de la part des forces de l'ordre et de sécurité de la RDC. Le gouvernement congolais est aussi coté du fait de la non-mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Attaque par des Maïmaï à Koutoumba, la ville d'Uvira n'est pas tombée, annonce le phare qui précise que la ville se trouve toujours sous le contrôle des FRDC et de la MONUSCO après avoir subi pendant environ 3 heures une attaque attribuée aux Maïmaï à Koutoumba dans la matinée de mercredi. Radio Capiponet note aussi qu'après des tirs sporadiques entendus ce jeudi matin dans la ville, les FRDC ont réussi à repousser les miliciens de Yakutumba à plus de 25 km avant de reprendre le contrôle de Makobola en limite avec les territoires de Fizi. Réagissant au discours du chef de l'État à New York, Laurent Batumona affirme que le moment nous oblige à une certaine hauteur, pas à un discours creux, rapporte la prospérité à Sayune. Et ce quotidien reprend les propos de l'élu de Kinshasa, qui estime que les questions qui préoccupent les Congolais sont de deux ordres. Premièrement, l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, dans les discours du président, il est à noter que le chef de l'État n'avait pas appliqué cet accord, qui du reste est un excellent choix fait pour baliser la par la voie des élections. Deuxièmement, le président n'a pas parlé de son avenir politique. Loi sur le statut d'ancien président élu, le Sénat revient à la charge et annonce pour sa part Forum des As, qui précise que la loi vise la protection par un statut spécial de la vie d'ancien président de la République élu. Les putschistes ne sont bien entendu pas concernés, conclut ce quotidien. Radio Capiponet annonce le décès de Désiré Baéré, son ancien journaliste. C'est par cette triste nouvelle que nous clôturons cette revue de presse. Merci.
Merci Guy Maté. Jean-Pierre, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué toute cette semaine que vous voulez partager avec les auditeurs?
Je suis très affecté par le décès de Désiré Baéré, qui a été à la fois un grand frère et un formateur pour moi, un digne journaliste et digne fils de la République, qui a tiré sa révérence hier, alors que il y a à peine 4 jours, on venait d'enterrer sa mère. Je dois avouer honnêtement que cette nouvelle a refroidi mes enthousiasmes depuis hier et Désiré. Je l'ai rencontré dans plusieurs circonstances. Avec lui, on a partagé à la fois expérience et exemple de la vie. Il a été plus qu'un frère. J'appréciais particulièrement son sourire. Il était toujours de très bonne humeur. Pour moi, c'est la nouvelle la plus triste, hein, qui a rythmé ma semaine. Je crois que j'ai du mal à... je supporte difficilement cette brusque disparition.
Merci beaucoup, Jean-Pierre. Peter, est-ce que vous avez connu particulièrement Désiré Bahéré?
De manière personnelle, parler avec lui au téléphone et surtout dans les réseaux sociaux, parce que nous étions dans un même groupe, JA, journaliste en action. Du point de vue réflexion et politique, on avait vraiment des avis divergents. Mais sinon, une fois dans JA, on a demandé à chacun de envoyer son CV. Je dois admettre que j'ai été vraiment impressionné par son CV, les études faites, le niveau et son passage ici à Radio Képi. Et aujourd'hui, il y a peu, lorsque moi on m'a informé, j'ai dit non, c'était une erreur parce que j'ai été informé de la mort de sa maman.
De sa maman,
Je disais que c'est la maman qui est décédée, c'était pas lui, c'est Jean-Jeff Manda qui me confirme que Peter, on l'appelle affectueusement Mouzé, nous a quittés. Un coup dur pour la presse, bien dommage, et condoléances à toute la famille, à toute la corporation. C'est comme ça que j'appuie beaucoup ce que Paulette qui m'ont tout dit dans « Aimons nous vivons » parce que mort, c'est assez compliqué. Et au-delà de ça aussi, ça démontre combien est-ce que nous devons faire des choses sur cette terre pour qu'après nous, que ceux qui vont rester aient un bon témoignage de nous, comme le cas de Mzé Bahéré, et aussi un engagement. Parce que nous devons savoir que lorsque Dieu décide, c'est lui qui donne, c'est lui qui prend. Donc il est très important encore ici que nous journalistes travaillions pour le développement de notre pays. Ne pas avoir peur de la mort. Parce que Mzé Bahéré n'a pas donné une information mauvaise qui a concouru à sa mort, non. C'est une mort naturelle qui est arrivée par une crise.
Merci beaucoup. Donna, vous êtes à Bukavu. Est-ce que vous avez connu Désiré Bahéré?
Merci, je ne l'ai pas connu personnellement face à face, mais au début de 2000, j'ai suivi quand même ce journal sur Radio Capi. Donc je le pleure, je présente d'abord mes sincères condoléances à sa famille biologique, à sa famille professionnelle et à nous tous. Je pense qu'un journaliste qui s'en va comme ça après avoir rendu un service loyal à la communauté, ça ne peut qu'être salutaire. Donc j'ai vu qu'il avait un parcours brillant et élogé au service de la communauté. C'est un soldat du peuple qui s'en va. Nous le plairons, nous ne l'oublierons jamais. Et encore une fois de plus, nécessaire condoléances.
Merci beaucoup. C'est sur cette triste nouvelle que nous allons ouvrir les débats du jour. Et ces débats sont dédiés à la mémoire de Désiré Bahéré, paix à ton âme. Nous parlons maintenant du dernier rapport du Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce Conseil a publié mardi ce nouveau rapport sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Jugé accablant, ce rapport épingle la situation des droits de l'homme proprement dite en RDC, mais également la situation politique et de gouvernance. Plus de précisions avec vous, Donna Madimba.
Ce rapport, selon RFI, évoque les droits de l'homme au Kasaï, mais également dans les deux Kivu et le Tanganyika. S'agissant du Kasaï, le Conseil des droits de l'homme regrette que les autorités de RDC ne se soient pas saisies des informations transmises au sujet de 87 fosses communes recensées dans le Kasaï et que l'action des forces congolaises, avec un usage jugé disproportionné de la force, ait conduit à l'une des pires crises humanitaires au monde, avec des chiffres comme 5000 morts et plus d'1,5 million de déplacés et des réfugiés en un an. L'organe onusien considère, je cite, que peu de choses ont été faites pour mener des enquêtes crédibles, impartiales et indépendantes sur les graves violations de droits de l'homme commises par les forces congolaises de défense et de sécurité. Le patron de la MONUSCO a à ce sujet réclamé des sanctions exemplaires pour les responsables, quels qu'ils soient. Au sujet des deux Kivu et du Tanganyika, le nouveau rapport de l'ONU les qualifie des conséquences de l'instabilité politique entretenue par les autorités de Kinshasa. Du point de vue politique et de gouvernance, enfin, ce rapport affirme que Kinshasa n'a aucune bonne volonté de poursuivre un processus démocratique pacifique, dénonçant, je cite, une répression systématique des opposants politiques, des défenseurs de droits de l'homme et des journalistes, l'augmentation des prisonniers politiques et le refus de les libérer malgré un accord politique, le report incessant de l'annonce d'une date pour les élections promises et que ce qui est actuellement appliqué politiquement en RDC n'est pas ce qui a été officiellement décidé par l'accord politique du 31 décembre 2020. 2016.
Merci Dona Madimba. Et en réaction, la ministre congolaise des droits de l'homme a déclaré que le tableau peint par le Conseil des Nations Unies des droits de l'homme est tellement sombre que l'on donne l'impression qu'il n'y a plus d'espace pour respirer en RDC. Jean-Pierre Kayembe, je rappelle que vous êtes journaliste et responsable de la presse numérique à RTGA, un média émettant ici à Kinshasa. Quelle lecture vous faites de ce nouveau rapport du Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies?
Mais écoutez, Berry, moi je ne suis pas totalement surpris par ce nouveau rapport accablant, d'autant que je connais l'animosité du haut secrétaire général de Nations Unies aux droits de l'homme vis-à-vis des autorités de Kinshasa. N'oubliez pas que monsieur s'est illustré tout récemment par des accusations on ne peut plus non fonder. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression que le Haut Commissariat des Nations Unies pour le droit de l'homme, c'est une structure tenue par des gens qui veulent à tout prix discréditer les autorités en place à Kinshasa. Quand on dit par exemple que qu'il n'y a pas une bonne volonté de poursuivre le processus démocratique, mais c'est assez risqué et aberrant quand on sait que sur place, il y a l'enrôlement des électeurs qui est en cours. Après le phénomène Kamwenasapo aujourd'hui, on est en train d'enrôler dans le Kasaï. Donc la volonté manifeste d'aller aux élections est là. On dit qu'il y a un manque de volonté pour appliquer l'accord. Mais attends, bon Dieu, on voit ou on ne voit pas. A-t-on besoin des lunettes pour bien voir? N'a-t-on pas vu que cet accord du 31 décembre a aujourd'hui engendré un premier ministre, Bruno Tshibala-Nzenze, qui fait son travail d'épi? N'a-t-on pas vu que cet accord a donné naissance à la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord, aujourd'hui avec son président et tous les autres membres qui sont déjà en place? N'a-t-on pas vu que par le fait de cet accord, il est prévu incessamment une rencontre d'évaluation du processus électoral? Donc, je crois que cet accord, ces documents est dénué de tout fondement. C'est un document fait justement avec l'intention préméditée de vouloir discréditer le pouvoir à Kinshasa. Je sais que monsieur le haut commissaire ne supporte pas le président Kabila, ça c'est connu de tout le monde. On accuse sa proximité avec les milieux katumbistes et des autres milieux. Mais je crois qu'il devrait se référer au discours du président Kabila sur le toit du monde. Le samedi, du haut de la tribune des Nations Unies, il a confessé sa foi en la démocratie, à la mise en place, à la mise en application de l'accord et au processus électoral.
Très bien. Donc, Jean-Pierre, laissez-moi vous poser cette petite question. Jean-Pierre.
Nous aurons des élections, l'accord va être appliqué, il ne sert à rien de tergiverser ou de trouver des arguments qui ne tiennent pas la route.
D'accord, Jean-Pierre. Vous parlez d'une animosité qu'a le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Sur base de quoi vous prétendez à cette qualification?
Non, mais écoutez, vous n'avez qu'à voir ces dernières sorties médiatiques. On n'a pas désormais affaire à une personnalité neutre, mais on a affaire à quelqu'un avec un penchant très prononcé.
Et vous rabattez.
Il y a des rapports qui démontrent, par exemple, que les deux experts, peu à leurs âmes, Michael et Zeina, ont été assassinés par des miliciens comme on a Kamwenasapo. Et monsieur ne veut pas croire en cette thèse. Et des rapports ont démontré que ce sont ces miliciens qui l'ont assassiné. J'ai cité tantôt la mise en application de l'accord. J'ai cité le gouvernement d'Union nationale, piloté par un des opposants radicaux, Bruno Tshibala, qui a été parmi les durs, parmi le plus proche collaborateur de Tshisekedi. Il est aujourd'hui à la tête du gouvernement. Doit-on lui dénier la qualité d'opposant? Donc vous comprenez, donc je n'ai que ça.
D'accord. Jean-Pierre, je vous redonne la parole. Je vous redonne la parole le temps que je pose la question la même question pratiquement à Peter, parce que je le voyais sourire un peu dans ce studio. Pourquoi vous souriez, Peter?
Je souris parce que je suis en train d'entendre mon confrère que j'aime bien, mais j'ai plus entendu quelqu'un qui travaillait dans le cabinet de Bruno Tshibala que un confrère journaliste. Je comprends quand il dit que Bruno Tshibala applique l'accord, quand je comprends qu'il dit que Bruno Tshibala travaille. Avant que je revienne au rapport, regardez ce qui se passe aujourd'hui, les grèves à gauche, à droite. À l'Unikin, les professeurs ont radicalisé la grève, les médecins n'en parlant pas. Avec la catastrophe qui est à Mamayemo, les enseignants, les étudiants à gauche, à droite, ça bouge. Il n'y a que Jean-Pierre Kayembe qui voit que ça marche.
Très bien, alors allons-y au rapport.
Par la travail, malheureusement. Par rapport au rapport, j'aurais bien voulu que Jean-Pierre Kayembe aille dans le fond. Qu'il aille dans le fond pour contredire ce qui a été dit. Pour dire, le rapport dit ceci, mais de l'autre côté, il y a ceci. Malheureusement, mon brillant Jean-Pierre Kayembe a eu du mal à pouvoir contredire.
Mais il a parlé quand même de, d'une certaine animosité.
Il parle de l'animosité du haut-commissaire sans parler du fond du rapport. On parle de 87, si je ne me trompe pas, fausse commune. Est-ce vrai? Oui. On parle de plus de 5000 morts. Est-ce vrai? Oui. Qui a tué? On parle des forces de l'ordre. Est-ce vrai? Oui. Plus d'un million de déplacés. Est-ce vrai? Oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre?
Donc pour vous, ce rapport-là, il présente carrément la situation du pays telle qu'elle.
Chez nous, les journalistes ont dit que les faits sont sacrés. Le commentaire est libre. C'est-à-dire, ça, ce sont des faits. Ce qui s'est passé au Kassai. Il y a peu, je viens de suivre, on a fait un forum réconciliation et paix.
Dans les Kassai, oui.
On va réconcilier qui pendant qu'il y a des gens, plus d'un million, qui sont déplacés? On va réconcilier qui pendant qu'il y a des gens qui sont morts? Qu'adviendrait-il de ces familles-là qui ont perdu les leurs? Qu'est-ce qui s'est passé au Kassai? Une affaire bête, excusez-moi le terme, d'un chef coutumier qui veut être reconnu par l'État et on veut imposer à ce chef coutumier d'être pro-gouvernement. Ce chef coutumier a refusé. On a bloqué au ministère de l'Intérieur pour signer. Et en fin de compte, le chef coutumier a même dit qu'il voulait une médiation des Nations Unies. On a refusé, on a ordonné qu'on le tue. Tout est parti de là. Qui a ordonné qu'on le tue? Voilà des questions. Alors après qu'il soit tué, c'est la catastrophe qui s'en est suivie. Cette catastrophe-là, l'escadron de la mort qui est allé causer, passez-moi la tautologie, mort, qui avait donné l'ordre? Lorsqu'on pose de mauvaises questions, on a des mauvaises réponses.
Et vous pensez que vous posez des bonnes questions?
Mais justement, c'est ça le problème. C'est question des références. Qui a fait quoi? Où? Quand? Comment? Et pourquoi? Répondez, vous avez l'information. Malheureusement, on pose des mauvaises questions. On dit que le haut commissaire et l'animosité, il est contre Joseph Kabila du haut de la tribune. Mais aux Nations Unies du haut de la tribune, qu'est-ce que le communiqué a dit? Qu'il faut l'application de l'accord. Donc on sous-entend que les deux personnes qu'on a débauchées au sein de l'opposition, Bruno Tshibala et Joseph Olengankoy, aujourd'hui passent au sein de l'opinion comme des ennemis du peuple parce qu'on a voulu contourner l'accord.
Rapidement, avant que je ne donne la parole à Dona Moussema qui est à Bukavu, comment vous avez analysé finalement la réaction de la ministre des Droits Humains, Marie-Ange Mouchebekwa?
Il y a de l'espace pour respirer au Congo. Lorsque les gens marchent pour les passeports.
Mais vous respirez quand même.
Mais il faut prendre des cas, justement. Lorsque des gens marchent pour des passeports biométriques, ils sont au Niouf. Lexus légal et consorts. La Lucha récemment. Ça, c'est des faits. Vous êtes dans un pays où c'est l'État qui vous donne un document. L'État vous dit que ce document va jusqu'en 2020. C'est le même État qui vient vous dire, nous sommes en 2017, vous avez un mois, ce document-là n'a plus sa validité. L'État vous dit, venez acheter un autre document. C'est ça l'État, il vous donne un permis, parce que le ministre des Transports, José Makinel, ne veut pas rester en l'Est, lui aussi doit bouffer, parce que bientôt c'est le 31 décembre, chacun doit se retrouver, se remplir les poches. Lui aussi, c'est le permis biométrique.
D'accord, merci.
Pour finir, vous êtes dans un État où vous achetez une parcelle, vous avez tous les documents, l'État vous donne un certificat d'enregistrement, tous les documents, et c'est l'État qui emmène un escadron pour marcher sur vos concessions. Voilà l'État où nous sommes. C'est des faits.
Je vous redonne la parole.
Regrettable.
D'accord, je vous redonne la parole. Dona Moussema, est-ce que vous pensez que ce rapport des Nations Unies est objectif?
Merci beaucoup. Je voulais tout d'abord dire que nous devons être sincères et rationnels. Nous devons apprendre à saluer le travail d'autres personnes. Je me dis un rapport comme celui-ci, qui est le fruit d'une fouille qui a été enquêtée. Il y a eu des rapports, d'autres petits rapports qui ont été faits avant qu'on produise ce rapport. Donc je pense qu'il faut d'abord le saluer. le qualifier du coup comme ça, brutalement, que c'est de l'animosité, je pense que ça relève un peu du sentiment. Au contraire, moi, personnellement, je le trouve factuel. Parce que les choses qui sont énoncées dans les rapports sont des choses concrètes. Quand on dit, par exemple, que il y a eu répression systématique des opposants, des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes, est-ce que c'est pas visible et vécu dans ce pays, même au stade actuel? Ici, à Bukavu, la police a tiré sur la population. Nous avons déploré 2 morts. Voilà. Donc, je pense que c'est autant de choses. C'est autant de choses qui montrent que ce qui est dit dans le rapport est vrai. Je ne suis pas d'accord avec lui quand il parle de l'animosité. Il n'y a pas d'animosité parce que le rapport est plutôt factuel avec les éléments qui sont déjà avancés. Nous devons.
Mais il parle de la haine que.
Le travail d'autres personnes.
Mais Donna, vous avez entendu Jean-Pierre dire qu'il y a une sorte de haine qu'entretiendrait le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme face au président Kabila.
Bon, à moins que le confrère Jean-Pierre Kayembe et l'appareil pour mesurer les sentiments des personnes. Est-ce que nous sommes au courant de ces tels présumés? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une ou pas. Seulement, je vois le rapport. Je n'ai jamais rencontré celui qui a fait le rapport. Je ne sais pas les relations personnelles et sentimentales avec le président Joseph Kabila. Mais si je vois seulement le rapport, ce qui est dit dans le rapport, je trouve que c'est factuel. Si on parle, par exemple, de Kinshasa qui ne souhaite pas organiser les élections à cause de manque de volonté politique, est-ce que c'est pas visible? L'accord est là, l'accord avait prévu que les élections doivent avoir lieu au plus tard le 31 décembre. Mais à l'allure où vont les choses, on sent que de plus en plus on s'éloigne de cette réalité-là. Donc, quand on parle des violences dans le nord et le sud, qui vont toujours dans le rapport, qui sont causées par l'instabilité politique entretenue par les autorités de Kinshasa, est-ce que c'est pas vrai? Parce qu'il y a manque de volonté politique. Moi, je ne sais pas, je le trouve tout à fait factuel et rationnel, sans sentiment, dénoué de toute subjectivité au contraire.
Merci beaucoup Donna. Je reviens à vous Jean-Pierre Kayembe. Je vous fais réagir à ces propos de tonton Albert Tambola de l'Issala qui pense que sans que l'on nous brosse ce rapport, nous sommes nous-mêmes témoins de la violation des droits de l'homme qui se consomme dans notre pays plus que le pain pour le déjeuner. Comment vous réagissez? Et en même temps vous répondez aussi à Peter et à Donna.
Bon, écoutez, je ne suis pas encore une fois surpris par d'abord la réaction des piqueurs. L'amour qu'il nourrit pour l'opposition ne me surprend pas. Et donc,
en dépit des faits qui ont été présentés.
Ça, c'est de 1. Et il a parlé notamment des fosses communes, des morts au Kasaï. Piqueur est journaliste, je le respecte beaucoup. Et je respecte également son entreprise Le Vrai Journal. Mais s'il est réellement la tête du Vrai Journal, il devrait enquêter, savoir au Kasaï des procès ont commencé. Je ne sais pas si l'ONU attendait envoyer des juges pour juger les auteurs des crimes commis au Kasaï. Il parle des forces de l'ordre qui ont tué les gens au Kasaï. Il oublie en même temps qu'on a vu plusieurs fois les terroristes, je préfère les appeler ainsi, les terroristes de Kamwena Sapu. Tuer des gens à l'aide des armes blanches, des machettes, des couteaux. Il n'a pas vu ces images qui ont fait le tour du monde.
Mais Jean-Pierre, sans te couper.
Il n'a pas vu les images du meurtre des experts des Nations Unies. Il est chef d'entreprise. J'imagine bien qu'il doit avoir été convoqué avec tous les autres chefs d'entreprise au ministère de la Communication et Médias quand ces images ont été publiées. Peter Siani le sait, et ça, il le sait sciemment. Il sait que ce qui s'est passé au Kasaï, les forces de l'ordre n'ont fait que protéger l'intégrité du territoire, et c'était dans leur devoir le plus légitime.
Mais quand vous entendez Donna dire que c'est un rapport de plus factuel, qui est dépourvu des états d'âme et des sentiments, vous pensez, vous restez quand même dans votre carcan pour dire qu'il y a toujours cette animosité et Peter refuse de voir la réalité en face?
Moi, je vois les dessous des cartes. Au-delà du fait, le journaliste étant analyste, il sait voir. Nous savons que par le passé, il y a un précédent fâcheux entre messieurs du Haut Commissariat et le pouvoir à Kinshasa. Le refus de Kinshasa, dans un premier temps, pour l'ONU d'envoyer une commission d'enquête indépendante est à la base de tout ça. Et messieurs cherchent à tout prix, ça, ils cherchent à charger davantage, un réquisitoire à charge
Mais nous, nous sommes ici à Kinshasa. Nous estimons, par contre, que la situation des droits de l'homme évolue mieux qu'il y a encore quelques jours.
Merci.
Monsieur, je voudrais dire un mot, parce que Peter a parlé tantôt du Tibala qui aurait été débauché. Je suis vraiment désolé. Peter est proche des milieux de l'opposition. Il sait ce qu'a été Tibala ou Olengankoy aux yeux de feu Étienne Tshisekedi peu à son âme.
Merci. D'accord.
Aujourd'hui, on ne peut pas parler de ces deux, des débauchés, mais c'est plutôt deux gens qui se sont opposés à la vente aux enchères de l'héritage d'Étienne Tshisekedi.
Jean-Pierre, je vous redonne la parole. Peter Tiani, je reviens à vous. N'est-ce pas un rapport de trop et politisé, surtout que ce rapport tombe quelques jours après le discours du chef de l'État au Conseil de l'ONU? C'est ce que dit Pepe Lisungi de Kisangani. Comment vous répondez?
Merci beaucoup. Je voulais d'abord ici féliciter Jean-Pierre Mbé. Il faut avoir de la jugeote et de la réflexion pour arriver à répondre à des questions aussi difficiles. Hein. Jean-Pierre, en tout cas, coup de chapeau pour ça. Combien même que ce n'est pas facile pour toi de pouvoir défendre des choses.
Alors,
j'estime que tu n'es pas très convaincu toi-même. Mais sinon, par rapport à ça...
Est-ce que ce n'est pas un rapport de trop et puis politisé en même temps?
Il s'agit de la vie des Congolais. Si le gouvernement congolais n'avait rien à cacher, il n'allait pas refuser à la communauté internationale de faire des investigations sur place. Le simple fait qu'on avait des choses à cacher, c'est ce qui prouve à suffisance qu'on a refusé que la communauté internationale fasse une enquête indépendante. Oui, Jean-Pierre Kayembe, j'étais parmi les responsables de médias invités par le ministre de la Communication et Médias pour la projection de certaines images, notamment des officiers des Nations Unies qui ont été tués, oui. Et on a vu les images, mais nous avons aussi vu les images, Jean-Pierre Kayembe, tu n'as pas vu, les cadrans de la mort sur des enfants, sur des femmes.
D'accord, Jean-Pierre.
En train de tuer.
Peter, laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que finalement la publication de tous ces rapports, si notamment le dernier du Conseil des Nations Unies aux Droits de l'Homme, va aider la RDC à sortir de la crise?
Berry, s'il n'y avait pas le Conseil de sécurité, s'il n'y avait pas les droits de l'homme dans ce pays, nous serions déjà tous tués comme des chiens. C'est grâce à eux qu'à un moment on sait que on ne peut pas faire certaines choses puisqu'il va y avoir un rapport. Qui dit rapport dit archive. Qui dit archive dit un jour ces pays. Joseph Kabila a rencontré Ben Souda aux États-Unis. On ne sait pas ce qui a été dit. Aujourd'hui, j'apprends qu'au Sénat, on a vu toucher la loi sur les anciens chefs d'État qui est envoyé à l'Assemblée nationale. Si ce sera une sortie honoreuse pour le chef d'État, ce serait une bonne chose. Oui, et puis quand Jean-Pierre Kayembe parle de Bruno Tshibala, il a raison, Jean-Pierre, pas proche de l'opposition, journaliste compatriote du peuple, je le suis. Et par rapport à ça, toujours en contact avec certains, et il peut bien faire un sondage, il se rendra compte qu'il faut juger l'homme à l'acte. Le travail que Bruno Tshibala a fait aujourd'hui sur le terrain, son directeur de cabinet avait même dit deux promesses. Première promesse, le dollar va redescendre jusqu'à 10. Deuxième promesse, on va payer les gens au taux de 14,5. Pourquoi il y a des grèves aujourd'hui?
D'accord.
C'est un échec cuisant. Dans les pays développés, vous avez 100 jours, vous faites un bilan. Aujourd'hui, les 100 jours de Tshibala, enlevons la personne de Tshibala, parlons du Premier ministre. Le 100 jours du Premier ministre, regardez la situation. Si Tshibala a encore les valeurs pour lesquelles il s'est battu hier, c'est quelqu'un qui doit aujourd'hui jeter le tablier et dire, face à la souffrance du peuple congolais, je dépose et je m'en vais.
Merci beaucoup. Donna, je vous lis cette réaction de John Kamangou de Kinshasa qui dit, toujours des rapports incriminant les autorités et pas d'action ni mesures contraignantes pour faire jaillir la vérité. Toujours des réactions défensives des autorités congolaises alors que sur terrain, la situation réelle du pays contrarie leurs opinions. Doit-on conclure que ni les Nations Unies, ni les autorités congolaises, personne n'a le souci de favoriser l'amélioration de la situation du Congolais car il est ambigu d'accuser un commandant de n'avoir pas saisi les informations relatives à son crime. Comment vous réagissez?
Bon, je dis d'abord que les Nations Unies ne sont pas venues au Congo pour faire des actions à la place du gouvernement. Beaucoup de Congolais ont toujours pensé que ce sont les étrangers ou d'autres qui viennent qui vont remplacer le gouvernement congolais. Ça a été toujours une très mauvaise perception de la présence de l'ONU ici en République démocratique du Congo. Le gouvernement, c'est vrai, il y a eu beaucoup de rapports, mais généralement, le gouvernement congolais ne réagit jamais par manière, donc d'une façon écrite au rapport. C'est ce qui nous a toujours tiqué. Chaque fois qu'il y a un rapport qui dit la vérité, on voit tout de suite le ministre le porte-parole du gouvernement réagir, mais il faut aussi qu'il descende sur le terrain et faire ce qu'on appelle un contre-rapport. Ce serait scientifique et parallèle. Donc, Moi, je pense que ce genre de rapports sont des bons rapports parce que c'est comme si on interpellait et on faisait en même temps le rôle des chefs de garde. Et c'est très important pour montrer au gouvernement qu'il y a beaucoup de dérives et c'est des rapports que nous encourageons. Évidemment, on peut ne pas aujourd'hui se référer à ce rapport-là, mais avec l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, je pense que même 10 ans, 20 ans après, on peut se servir de ce rapport pour remettre les Congolais dans ce droit. Donc moi j'encourage ce rapport, l'auditeur qui a réagi de Kinshasa, je l'encourage aussi en lui disant que non, bon, on va laisser le temps au temps, mais ce genre de rapports sont de bons rapports, je pense, et c'est bien, ça montre qu'il y a quand même collaboration, mais dans la collaboration, on doit dire la vérité. Même la ministre, j'ai suivi qui a réagi, Marie-Ange Mouchobekwa, qui dit, bon, on a l'impression que rien ne marche dans ce pays. Non, ce qui étudie, c'est souvent les enfants des ministres, les enfants des pauvres qui étudient. Est-ce qu'elle a vérifié le taux d'analphabétisme dans le pays? Est-ce qu'elle a vérifié le taux de la faim, par exemple, dans le pays? On doit lui rappeler que, par exemple, le Congo, elle seule, peut nourrir 2 milliards d'humains sur Terre. Mais nous sommes 80 millions et 90% de la population congolaise souffre de la faim.
Merci beaucoup et c'est sur cette note que nous allons commencer notre deuxième thème de la soirée qui concerne la situation sécuritaire à Uvira. Et dans cette partie de la province du Sud Kivu, la situation sécuritaire est sous contrôle et les activités ont repris dans la cité d'Uvira aujourd'hui vendredi dans la matinée après une journée très agitée d'hier jeudi où les miliciens de Yakutumba ont attaqué la cité à partir du lac Tanganyika. Les combats se déroulent à 25 km de Makobola et Suimi, au sud de la cité d'Uvira, dans le territoire de Fizi. D'après le porte-parole de l'armée au sud Kivu, trois assaillants Mai Mai ont été capturés pendant les combats d'hier jeudi vers Makobola. Des précisions avec vous, Fiston Goma Mayabala.
Quelques boutiques, entrepôts, magasins, banques, agences de voyage ainsi que le principal marché de la ville ont repris normalement leurs activités. Mais visiblement, l'ambiance est encore morose. L'administrateur ad intérim du territoire d'Uvira, qui a reçu la délégation de la MONUSCO ce matin à son office, rassure sur les efforts des autorités étatiques pour la protection des civils. Stéphanie Milenge Matundanya.
Je suis convaincu, l'ennemi est parti loin de la ville. C'est pourquoi nous continuons toujours à insister de demander les parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Les opérateurs économiques d'évacuer librement dans leurs occupations. Les opérateurs agricoles d'amener leurs denrées alimentaires au marché pour que la ville retrouve son image habituelle, comme toujours. La frontière est gérée des deux côtés. Il y avait eu les coups de feu depuis hier. Cela a permis nos amis burundais d'ouvrir tardivement leurs frontières. Mais les nôtres, nos agents de la DGM, étaient déjà à la frontière pour permettre le mouvement de la population. J'ai observé que le mouvement est presque normal comme à la coutume.
La délégation de la MONUSCO a échangé avec l'évêque du diocèse d'Uvira, Monseigneur Joseph Sébastien Muyengo, a salué l'implication de la MONUSCO dans la protection de la ville lors de son intervention hier contre l'avancée des rebelles Yakutumba. Signalons par ailleurs que les troupes de FRDC continuent leur progression vers le sud d'Uvira dans la poursuite des assaillants. Ce dernier serait en débandade à destination d'Ubuari. D'Uvira, Fistongo Mamayabala, Radio Kapi.
Et pour être complet dans ce dossier, le chef d'état-major général de l'armée, le général Didier Etumba, s'est montré rassurant et voici d'ailleurs ce qu'il a déclaré à son arrivée à Goma pendant qu'il était en escale pour Uvira.
Ben, ils ont attaqué, j'ai parlé de feux de paille. C'est un de feu de paille. Nous allons l'éteindre et puis nous allons nous organiser, comme toujours, pour essayer d'en finir définitivement par ces groupes-là. Mais il faut que le problème soit résolu au niveau de ses origines. Hein. On a une forte tendance à essayer de mettre le dos sur le problème sur le dos de ceux qui justement sont en train d'éteindre tous ces feux de paille. Et efficacement en plus.
Le général Didier Etumba était au micro de Gisèle Cage. Dona Moussema, je rappelle que vous êtes directeur général de la radio Iriba FM, émettant à Bukavu. Comment vous analysez ce qui se passe à Uvira dans votre province?
Merci beaucoup. D'abord, je dois dire que depuis très longtemps, nous sommes une province, le sud qui vous, généralement, les bastions de toutes les révolutions, de toutes les rébellions qui ont commencé dans ce pays. On va se rappeler que d'abord Mulele, Scram, RCD, Afdel, tout est parti donc du sud Kivu. Donc ça n'étonne pas aujourd'hui encore qu'il y ait un cas de rébellion dans ce sens-là. Mais dans l'opinion, parce que je donne pas mon opinion, mais je donne l'opinion des gens que nous avons rencontrés, beaucoup de gens pensent que cela, c'est la résultante de la frustration parce qu'on sent de plus en plus qu'il n'y a pas la volonté politique d'organiser les élections. Alors comme il y a des camps qui sont frustrés, alors on réagit différemment. D'autres pensent à la rébellion, d'autres pensent à la démarche et tout et tout. Et à ce niveau-là, il faudrait encore une fois interpeller la classe politique congolaise, le régime en place, de penser vraiment à l'alternance en organisant les élections. Alors il y a d'autres voix qui pensent que cette rébellion serait aussi commanditée par les sommets de l'État congolais pour justifier la non-tenue des élections. Donc c'est très très divergent par rapport à cette situation. Mais j'aurais aussi voulu que notre confrère Fiston Ngoma nous dise aussi quand même où serait le Yakotumba lui-même, où est-ce qu'il serait. Parce que j'ai trouvé le reportage un peu déséquilibré. On ne sait pas, il serait où, qu'est-ce qu'il dit, comment il évolue. Parce que ce que nous venons de suivre, c'est juste pour les côtés du gouvernement.
D'accord. Alors comment vous réagissez à ces propos de Séverin Kitchele qui est aussi à Bukavu? Lui soutient que les Congolais sont fautifs sur toute la ligne parce qu'il dit au lieu de nous attaquer aux conséquences, on s'attaque aux conséquences. Et donc pour lui, il estime que les causes sont tout ce que la MP et son allié la CENI ne veulent pas organiser les élections RDC et les Congolais ne sont plus prêts à revivre la dictature. Comment vous réagissez?
C'est effectivement ce que je venais de dire en disant que les gens s'attendaient à l'organisation des élections dans le délai. Les délais sont déjà passés, on a eu l'accord qui a repêché presque tous les acteurs pendant au moins une année. L'année se termine bientôt, il n'y a pas de signe vraiment majeur pour que la date soit respectée. Cela crée des frustrations. Et devant les frustrations, que ce soit dans un camp comme dans un autre, les réactions sont divergentes. C'est comme ça que moi je comprends cela. Et à ce niveau-là, je pense que la cause, c'est toujours le pouvoir de Kinshasa qui ne veut pas libérer l'espace démocratique dans le pays, qui ne veut pas vraiment changer de régime, qui ne veut pas qu'il y ait alternance dans le pays. Alors, les réactions seront nombreuses, mais dans un sens comme dans un autre,
elles
sont imprévisibles. Donc voilà, tout peut arriver avec cela.
Merci beaucoup. Jean-Pierre Kayembe, je rappelle que vous êtes journaliste et responsable de la presse en ligne à RTGA, un média qui est mis ici à Kinshasa. Il n'y a pas qu'à Uvira qui a eu, il n'y a pas qu'à Uvira où il y a eu cette insécurité. Il y a eu aussi Kasongo dans le Maniema, pour ne citer que cette ville. Comment vous comprenez la résurgence des attaques par les Mai Mai?
Non, écoutez, aujourd'hui, aucun élément, aucun prétexte ne peut justifier ces attaques qui, malheureusement, causent mort d'homme. Ce sont nos citoyens à nous qui sont tués dans ça. Un feu de paille, comme le général Itumba l'a dit. Aujourd'hui, prétendre engager ce genre d'action pour dire qu'il n'y a pas de volonté politique.
Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez vous déplacer le temps que ce chien-là ne puisse plus aboyer?
Oui, vous comprenez, je suis à la maison. Vous m'entendez?
Oui, là je vous entends très bien.
Donc je disais que c'était un feu de paille, le général est tout maladie. Il y a des gens qui veulent profiter de la situation actuelle.
Mais c'est qui ces gens qui veulent profiter de la situation actuelle?
Moi, je soupçonne une main noire derrière ces attaques à répétition. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de volonté manifeste pour organiser les élections. N'ont-ils pas demandé à la CENI combien d'enrôlés a-t-on aujourd'hui? La commission électorale a dépassé le cap de 42 millions. On finit l'enrôlement dans le Kasaï et puis il y aura une rencontre d'évaluation. CENI, gouvernement CENI, ça pour enfin fixer un calendrier électoral. On a encore offert dans la mémoire des deux ou trois calendriers électoraux qui ont été publiés et qui n'ont abouti qu'à des contestations de la classe politique. Dire qu'il n'y a pas de volonté d'organiser les élections, ça c'est encore un mensonge grossier parce que du toit du monde, le président Kabila a affirmé sa volonté d'organiser les élections. Il a toujours dit qu'il respectera la constitution. Parler d'alternance à ce stade, moi je crois que le prochain président ne viendra pas d'un putsch. Le prochain président doit être issu des élections.
D'accord, je vous redonne la parole, Jean-Pierre.
Le préambule de notre constitution.
Je vous redonne la parole, Jean-Pierre. Peter Tiani, vous avez entendu Jean-Pierre Kayembe dire que il soupçonne une main noire noirs derrière toutes ces attaques. C'est pratiquement ce que dit Chouk Mouigi, roi de Lubumbashi, qui dit aussi voir, qui dit aussi qu'à voir comment Mai Mai Yakutumba évolue dans le, sur le terrain, il y a lieu de croire à l'existence d'une main noire derrière ce mouvement. Est-ce que vous aussi vous y croyez?
D'abord, il faut déplorer cette situation. Le départ de Mobutu, la venue du clan Kabila aura apporté cette fragilisation de la partie est du pays. Plus de 1 million de morts, vous savez, c'est toujours de ce côté-là. Fort malheureusement, l'héritage de Kabila, ce sera ça. 16 ans au pouvoir, passoire dans l'est du pays.
Mais est-ce que vous êtes sûr aussi qu'il y a une main noire derrière?
Je vais y arriver, mais c'est quand même, c'est bien dommage que nous avons une armée dans ce pays. Qu'on nous dise, c'est la manière dont on traite l'armée. Mamadou Nda l'a démontré, Moussa Mabé a démontré. Ils sont traités d'une certaine façon, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à travailler comme il se doit. Parce que les Congolais, lorsque tu les mets dans des bonnes conditions, ils travaillent bien. Malheureusement, lorsque tu le traites comme on traite un militaire avec 80 000 francs, il ne sait pas faire du boulot. Ça, c'est une parenthèse. Donc, on retiendra de ce régime, 16 ans durant, c'est cette passivité dans l'est du pays où n'importe qui peut faire n'importe quoi. Mais l'autre paire de manches, c'est...
Et en guise de conclusion en même temps, parce qu'on arrive déjà à la fin de notre émission.
L'autre paire de manches, c'est pourquoi lorsque nous sommes toujours à la fin de la chose, près les élections, on parle du 31 décembre, pouf, une rébellion, Yakutumba. Je ne sais pas, selon les informations, nous apprenons que cette rébellion serait financée et appuyée, serait, j'utilise le conditionnel, par le Burundi. Mais le Burundi a quelle relation avec notre pays, Kourouziza, avec notre pays? Il n'est pas en brouille. Nous savons que le pays de l'Est s'entend bien avec notre pays. Il n'y a aucun dirigeant de l'Est qui est en froid avec nos dirigeants ici. Alors, il ne faudrait pas continuer, parce qu'ils ont plusieurs tours dans leur manche
en guise de conclusion.
Tirer les choses en longueur. En guise de conclusion, il faut le dire, que tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent rester à vie au pouvoir.
Merci beaucoup.
J'en appelle à ceux qui nous dirigent qu'il y a une vie après la présidence. Le 31 décembre, tout le monde dit qu'il faudrait emmener les élections pour changer les choses dans ce pays. Si on nage à contre-courant, les gens vont marcher sur les cadavres de Congolais.
Merci beaucoup. Jean-Pierre Kayembe, votre conclusion par rapport à cette question?
La conclusion de Peter m'a fait tiquer. Il dit qu'ils vont marcher sur les cadavres de Congolais. Là, je ne sais pas si c'est un journaliste qui parle ou un politique. Dans tous les cas, pour journaliste ou politique, est-ce qu'il prédit le malheur de son pays? Moi, je crois qu'il y aura élection, mais pas cette année, parce que seule la CENI est habilitée à organiser les élections et le pouvoir organisateur nous a prévenus.
Merci.
L'enrôlement au Kassai finit à la mi-novembre ou décembre. Il faudra que les institutions se retrouvent pour discuter d'une date pour le calendrier électoral. Donc, il y aura un jour, il y aura un matin, un soir.
C'est ça l'application de l'accord.
Le président Kabila, couvert à la fois par la Constitution et par l'accord du 31 décembre, va continuer à poser les actes légaux.
Merci Jean-Pierre. Donnant votre conclusion.
Nous devons exiger l'alternance selon l'esprit et la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre dans le pays. La République démocratique du Congo étant un État démocratique, nous refusons catégoriquement toute procédure d'accès à la magistrature suprême par la guerre. Et le chef de l'État, en sa qualité du premier citoyen congolais, devrait se dépasser, devrait exploser en volonté politique en faisant une bonne action, c'est-à-dire les garants des bons fonctionnements de toutes les institutions de la République.
Merci beaucoup.
L'alternance dans le pays.
Merci, et c'est la fin de la tribune de presse de ce dernier vendredi du mois de septembre 2017. Merci à vous qui avez animé les débats de ce soir. Jean-Pierre Kayembe, journaliste et responsable de la presse numérique à la RTGA. Peter Tiani, journaliste et directeur général du magazine Vrai Journal, diffusé dans certains médias de Kinshasa, et Donna Moussema, directeur général de la radio Iriba FM émettant à Bukavu et point focal de l'association des journalistes du Grand Lac représentant le Rwanda, le Burundi et la RDC. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente condition de suite sur la fréquence de la paix.